Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Il nous reste donc deux interventions ce soir et je vous remercie de votre patience assidue et en même temps tout ceci est passionnant et si bien dit que enfin moi en tout cas je n'ai pas envie de partir. Et Erika n'a pas pu ce matin intervenir pour les raisons que je vous indiquais autour de la figure de François Verdier. Erika Leroy est historienne de la Résistance, travaille depuis des années sur la Résistance à Toulouse, élève de Pierre Laborie. Il faudrait un jour aussi faire un sondage sur les élèves de Pierre Laborie qui passe entre ces murs, alors même que Pierre Laborie, lui, n'y rentrait pas souvent, ce qui serait aussi un autre sujet intéressant à étudier. Donc, Erika Leroy a publié un ouvrage sur Forain François Verdier, dont elle préside aussi actuellement l'association. Je vais pour lancer cette conférence, faire quelque chose qui ne se fait pas, débuter par la fin. Le 27 janvier 1944, François Verdier était assassiné en forêt de Boucone. Sa mission était celle de l'unification de la résistance en R4. Et au-delà du parcours exceptionnel de François Verdier, il est aussi un symbole pour montrer que cette unification de la résistance s'est aussi brisée sur les affres des oppositions. Et pourtant, François Verdier présentait un parcours... je ne sais pas si on peut dire atypique, en tout cas spécifique ici en Haute-Garonne, spécifique à la Haute-Garonne. Et je me permettrai peut-être de dire un mot sur pourquoi est-ce que l'histoire de François Verdier est finalement extrêmement liée à l'ADN du musée et des collections de ce musée, et des origines de la création de ce musée. Et Erika, c'est à vous pour une vingtaine de minutes.
Je vais essayer de faire moins vu la longueur de la journée et surtout la qualité des intervenants. L'idée, c'est de vous présenter le parcours de François Verdier sous l'angle des valeurs qui l'ont animé. Je ne vais pas revenir sur la vie, précisément sur la vie de François Verdier, mais essayer de montrer ce qui, comme vous le disiez, M. Guillon, ce matin, sur notamment le patriotisme qui, pour François Verdier, a été essentiel tout au long de son combat, de sa prime jeunesse à son décès. La photographie que je vous présente, il est âgé de 5 ans. François Verdier est né dans un petit village d'Ariège, les Alpes-sur-Lèze. Après, il a grandi et été éduqué à l'école communale publique dans le souvenir de la guerre de 1870-1871. Et j'ai mis cette citation de Jules Ferry parce que je pense que c'est au cœur de son éducation. François Verdier aussi était quelqu'un qui, donc, son père va connaître l'exode rural, participer à l'exode rural et venir à la ville, à Toulouse, pour y ouvrir un commerce de machines agricoles. Et François Verdier, dans son parcours scolaire, se destinait plutôt à devenir instituteur. Je pense que ça aussi, l'éducation, l'instruction, c'est quelque chose d'essentiel dans sa vie. On le verra un tout petit peu plus tard. Jusqu'à ce que son père lui explique que non, en fait, il allait devoir venir travailler avec lui dans le commerce de machines agricoles qu'il avait ouvert rue Matabio à Toulouse. Toujours son patriotisme, et surtout à cette époque-là, à Toulouse, on est loin du front, mais les élèves voient leurs établissements scolaires réquisitionnés pour servir notamment d'hôpitaux et de casernes. Et c'est ce que voit François Verdier. François Verdier habite près de la gare Matabio. Il a vu de nombreux départs vers le front, mais il a vu aussi son école supérieure, qui ne s'appelait pas encore lycée, mais qui est aujourd'hui le lycée Berthelot, près d'ici, servir d'hôpital. Et à 18 ans, il va signer son contrat d'engagement volontaire pour 3 ans. Pour rejoindre le front, il sera affecté à un régiment très mécanique, puisque c'est un régiment d'artillerie lourde à voie ferrée qui va avoir un impact chez lui sur l'amour de la mécanique et notamment des véhicules qui vont très vite, qui lui serviront par la suite pour se déplacer dans l'ensemble de la région. Alors François Verdier, c'est quelqu'un qui va s'engager très fermement dans la société, mais quand il rentre du premier conflit mondial en 1920, quand il rentre d'Allemagne, pour raison, il est démobilisé pour raison de santé, il va mener une vie assez légère pendant 10 ans, vivre comme donc fils d'un marchand, d'un commerçant, beaucoup jouer au rugby, beaucoup faire de nombreuses fêtes, parties de chasse et autres, dans le Gers notamment. Il va épouser une riche propriétaire, la fille d'un propriétaire terrien du Gers, jusqu'à sa rencontre essentielle qui va vraiment l'emmener sur un chemin qui va affermir ses convictions et ses valeurs. C'est la rencontre avec Jeanne Laforgue, qui est une institutrice parisienne, qu'il va rencontrer dans le Gers. Ils vont se marier en 1932, et à partir de 1932, sa vie change. Il s'émancipe de la tutelle paternelle, crée sa propre entreprise. En 2 ans plus tard, il va s'engager en franc-maçonnerie, ce qui va pour lui être l'engagement. François Verdier, c'est pas un politique, c'est pas quelqu'un qui va aller vers le Parti radical socialiste, bien qu'ici à Toulouse, au siège du Parti socialiste, son nom figure comme un militant sur la plaque. Il n'a jamais adhéré au Parti socialiste, mais c'est dans la franc-maçonnerie qu'il va s'exprimer et échanger ses débats. Derrière moi, à droite, vous voyez, on a trouvé très peu de documents concernant François Verdier, puisque sa maison a été pillée par la Gestapo à la suite de son arrestation. Et nous n'avons que très très peu d'écrits de François Verdier. C'est une planche qu'il a écrite en 1938, consacrée à la femme d'aujourd'hui et à sa conception de la femme à l'époque. Et c'est une planche vraiment intéressante qui montre le rôle de Jeanne Laforgue, de Jeanne, son épouse, notamment sur les conditions féminines, où il est intéressant de voir que François Verdier s'intéresse au sort des femmes à cette époque. Alors, François Verdier, c'est aussi quelqu'un qui est très simple d'approche. C'est quelqu'un qui... son épouse avait une ferme dans le Gers, à Saint-Auran. Et François Verdier, quand ils y vont tous les week-ends, et là, il côtoie aussi bien la famille des métayers, qu'il mange à leur table, les domestiques, il est dans les champs, il fait les travaux des champs. Mais il côtoie aussi toute la bonne société toulousaine quand il est à Toulouse. C'est quelqu'un qui a une facilité de parole, c'est quelqu'un aussi qui inspire la confiance. Et c'est son relationnel, ce côté très humain, va asseoir sa réputation et lui servira ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale pour inciter à désobéir et à rejoindre la résistance. On fait confiance à François Verdier, c'est quelque chose qu'il va travailler, notamment par exemple en 1938, son entreprise qui se trouvait à côté de la gare Matabiau est incendiée. Les agriculteurs qui se fournissaient chez lui, puisque c'était le plus gros fournisseur de machines agricoles dans toute la région et même en Espagne, vont s'inquiéter, et François Verdier fera paraître un article dans la presse pour dire que toutes les commandes seront honorées malgré... Voilà, c'est quelqu'un vraiment qui travaille sa réputation, et ce sera fort utile pendant la clandestinité. Alors, il s'engage en 1938. Alors, il s'était déjà engagé. On a beaucoup parlé de la proximité de Toulouse avec l'Espagne, et c'est vrai que dans le parcours de François Verdier, c'est très important, puisque à travers son engagement au sein de la Ligue des droits de l'homme, dont il deviendra secrétaire fédéral en 1938, il va nouer de nombreuses relations pour venir en aide à ses frères républicains espagnols. Il recevra même chez lui, il fournira un appartement et un travail à un jeune républicain espagnol et à son épouse, qui le rejoindront ensuite en 1942 dans la résistance. Il fait partie de tous les comités d'entraide qui sont organisés, comités politiques, syndicalistes, Ligue des droits de l'homme, qui se réunissent pour intervenir en soutien aux républicains espagnols. Il est élu comme juge suppléant au tribunal de commerce en 1938, et il va perdre ce poste en raison de son appartenance à la franc-maçonnerie en novembre 1941. Alors la franc-maçonnerie, pour lui, ça va avoir un rôle majeur. J'ai mis cette photo, vous la voyez peut-être pas très bien, la photo de gauche, mais pour moi c'est une photo qui illustre bien les débuts de... les débuts du combat clandestin de François Verdier, qui, de fait, en tant que franc-maçon, est très tôt concerné, puisque, comme vous le savez sans doute, le 13 août 1940, une loi dite maçonnicide vient interdire, s'en prend sans jamais citer ni le Grand Orient ni la Grande Loge de France, interdit les sociétés secrètes. Et François Verdier faisait partie d'un organisme qui gérait les locaux ici rue de l'Orient, du temple maçonnique. Et donc, les biens vont être saisis. Alors, j'ai mis la photo de cette statue parce que je ne sais pas si vous avez, pour tous, visité le premier étage du musée. Mais on a cette statue remarquable, ce buste dit Liberté ou Marianne du musée, qui date de 1848 et qui, alors on manque d'archives évidemment pour confirmer tout ce que je vous dis, mais il semblerait que François Verdier ait sauvé cette statue qui avait été malmenée par le comité d'investigation et d'enquête et puis par la commission d'armistice qui saisissait tous les biens maçonniques, et que cette statue qui pèse 80 kilos ait été soustraite de la rue de l'Orient pour être cachée dans un parc du Faubourg Bonnefoy. Il semblerait que François Verdier ait participé à cette évacuation. Alors cette statue, elle est arrivée ici au musée en 1977 portant la mention « don de la maçonnerie ». Voilà, bon, ça c'est pour l'anecdote parce que voilà, c'est quand même un bel objet. Et donc, son lien avec la franc-maçonnerie dissoute, le Grand Orient de France dissout, sa loge, les cœurs réunis ne pouvant plus se réunir. Cette photo, pour moi, elle illustre bien les premiers contacts de François Verdier qui vont constituer un début de résistance, même si, bon, il y a pas, c'est vraiment le début. Il va rejoindre un premier groupe avec ses amis maçons qui s'appelle Vérité, puis ensuite rejoindre un groupe un petit peu plus conséquent, peut-être 15 personnes, qui porte le nom de Liberté, Égalité, Fraternité, avant de rejoindre fin 1941 le plus grand mouvement Libération Sud, dont dans lequel il va plutôt organiser les filières d'évasion et le noyautage des administrations publiques, même si c'est après avec Maurice Dide du mouvement Combat qu'il va prendre de l'ampleur au niveau du noyautage des administrations publiques. Ici, en Haute-Garonne, et même dans tout ce qu'on appelle la région R4, qui recouvre 9 départements de l'ex-Midi-Pyrénées, c'est plutôt le mouvement Combat qui était prépondérant, comme ailleurs. Et François Verdier va devenir l'adjoint du docteur Maurice Dide, qui était un psychiatre, jusqu'à son arrestation en juin 1943. Alors, juin 1943, on est dans l'organisation ferme des mouvements unis de résistance. À Toulouse, ça a été, comme ailleurs, ça a été très compliqué. Vous parliez, Monsieur Guillon, ce matin, d'André Horiou. C'est le premier responsable de Combat qui est désigné pour prendre la tête des murs, des mouvements unis de résistance. Mais il est grillé à Toulouse et il est nécessaire pour lui de quitter la Ville Rose. Il propose pour le remplacer Jacques Donte, son adjoint, qui était à Toulouse depuis quelques mois. Et dont le pseudonyme, alors je ne sais pas si c'est lui qui s'était appelé comme ça ou si c'est les résistants qui l'avaient appelé comme ça, c'était Dubar. Voilà comment on le voyait, il donnait ses rendez-vous dans tous les cafés toulousains, mais c'est quelqu'un qui n'est pas accepté. C'est quelqu'un qui vient du nord de la France, qui est plutôt jeune, et il va subir une campagne de diffamation de la part de la résistance, une violente campagne de diffamation qui est rapportée par Claude Bourdet dans son livre « L'aventure incertaine » ou même par Freinet dans « La nuit finira ». Non, c'est « La nuit finira ». Il est accusé d'être un agent au service de la Gestapo, ni plus ni moins. Et donc, il laisse tomber et va rejoindre Alger avec moult difficultés et moult interrogatoires. Avant de partir, le choix de la personnalité, c'est lui qui va proposer François Verdier pour lui succéder, apparaissant comme celui qui peut, il est comme personnalité toulousaine, quelqu'un qui est quand même, qui a un réseau très étendu. Et François Verdier va donc se retrouver un peu brutalement à la tête des mouvements unis de la résistance. Depuis la défaite de la France, François Verdier n'a jamais pris de pseudonyme. Et quand on lit les mémoires de son adjoint, Pierre Dumas, Saint-Jean. Il nous décrit comment François Verdier, longtemps ça a été une légende ici, on ne savait pas pourquoi c'était forain. Et Pierre Dumas raconte que quand François Verdier est désigné dans une réunion clandestine, il y a sur la cheminée un ouvrage, celui-ci, de Jean-Louis Forain, un caricaturiste parisien. C'était tellement naturel, pour ce que je veux dire, c'est que François Verdier a œuvré sans arrêt, sans jamais se dissimuler. Il a gardé son entreprise, faisait des réunions clandestines. L'agenda que vous voyez ici, où est mentionné une rencontre avec Maurice Dide, c'est son agenda professionnel. Les rendez-vous, enfin voilà, ça fait partie de sa vie, de l'activité de sa vie. Il reçoit chez lui, il reçoit notamment très fréquemment Raymond Naff, qui habitait à côté, avec qui il va très bien s'entendre, et qui sera chargé de lui succéder après son arrestation. Voilà, donc il choisit ce pseudonyme de Forain. Sauf que pour diriger les murs, François Verdier doit passer de Libération Sud à Combat, ce qu'il accepte de faire. Vraiment, la cause de la résistance est pour lui au-delà de tout. C'est rapporté dans les témoignages qu'on a de ses camarades. Et que c'est considéré par ses camarades de Libération Sud comme une véritable trahison. Il va donc subir une première campagne de diffamation, lui aussi. Quand on y pense, dans l'urgence du combat, dans la nécessité d'organiser, quand on travaille sur un... C'est tellement surprenant, ces querelles. Enfin bon, en même temps, c'est l'humain. Et puis, une plus vaste campagne de diffamation va intervenir au mois de novembre 1943, à tel point que François Verdier devra se rendre deux fois à Paris auprès du comité directeur qui lui demande de se justifier. En fait, on accuse François Verdier de faire partie du Parti populaire français de Jacques Doriot. On fait circuler, alors on n'a pas retrouvé d'archives, mais on fait circuler de faux bulletins d'adhésion, des listes sur lesquelles apparaissent François Verdier. Mais l'adresse qui est mentionnée, l'adresse d'habitation de François Verdier qui apparaît sur ces faux documents et ne correspond pas à sa véritable adresse. Donc François Verdier arrive à se justifier. Mais cette campagne de diffamation va tellement loin qu'au sein du mouvement Combat et des responsables départementaux qui entouraient François Verdier, on décide de l'éliminer. On charge un homme des groupes francs de supprimer François Verdier. Il en a témoigné à la fin de sa vie. Cet homme s'appelait Pierre Bénèche et il a témoigné à la fin de sa vie auprès d'un étudiant de Pierre Labourie qui l'avait été chargé de supprimer François Verdier. Ce ne sera pas la peine puisque la Gestapo va s'en charger. François Verdier sera trahi par son chef du service de renseignement des mouvements unis de résistance qui va parler à l'Abwehr. Très bien, j'ai bientôt fini. Il va être trahi et avec lui l'ensemble de l'état-major des mouvements unis de résistance puisqu'une opération du KDS est montée dans la nuit du 13 au 14 décembre. Le KDS, la Gestapo avait appelé ça l'opération de minuit et simultanément à Toulouse, en Haute-Garonne, à Saint-Gaudens, dans le Gers, en Ariège, dans le Tarn-et-Garonne, dans le Tarn, en Aveyron. Sont arrêtés les responsables, soit de l'armée secrète, soit des murs des départements. Environ 110 personnes sont arrêtées. Quand les personnes concernées ne sont pas là, c'est-à-dire les hommes, ce sont leurs épouses qui sont arrêtées. La majorité d'entre elles seront déportées à Ravensbrück. Et François Verdier va être conduit au siège de la Gestapo. Sa position, alors que les Allemands savent tout, ils savent qu'il s'appelle Forain, ils savent. Ça va être le déni. Et on a pour témoignage un petit journal carcéral qui va tenir à partir sur une enveloppe qu'il avait dans la poche et qui nous permet de témoigner de ses derniers instants. Et il sera fusillé. Enfin, non, il sera conduit. Alors ça semble peu habituel finalement par rapport au sort qui aurait dû être le sien, puisque ses camarades responsables des murs vont être déportés. Lui sera extrait de la prison Saint-Michel le 27 janvier 1944 au petit matin et conduit par deux agents de la Gestapo en forêt de Boucone où il sera exécuté avec une arme américaine et le visage pulvérisé avec une grenade française. Il semble que les Allemands aient voulu faire croire une fois de plus à la division au sein de la résistance et que François Verdier avait été éliminé par la résistance. Les Allemands sont très contrariés puisque le corps va être immédiatement identifié puisque dans sa poche se trouve ce petit journal carcéral et que François Verdier c'était quelqu'un qui aimait beaucoup, qui était très élégant et qui aimait beaucoup les tenues vestimentaires et avait un tailleur de référence qui, grâce à l'étiquette sur le manteau, pourront confirmer qu'il s'agit bien de François Verdier. François Verdier a réussi à unir aussi au-delà de la mort, finalement, puisque cette cérémonie, alors j'ai mis deux photographies, une photographie prise en 1946, puisqu'un monument a été construit à l'endroit où son corps a été retrouvé dès 1945, une première cérémonie, il n'y avait personne, ni autorité, ni aucun représentant militaire, ses amis proches, ses amis maçons notamment, et ses amis résistants. Et puis une photo plus récente où nous avons eu la chance d'écouter M. Guillon faire un remarquable hommage à François Verdier, un très beau discours que vous pouvez consulter sur le site François Verdier, voilà, pour la pub. Mais c'est, voilà, François Verdier a continué à unir, à réunir... encore de nos jours autour de... Parce que c'est une des rares cérémonies quand même qui rend hommage à un seul homme, bien que au-delà de la personnalité de François Verdier, lors de cette cérémonie en forêt de Boucone, on rend hommage à travers le chef régional des Mouvements Unis de la Résistance à l'ensemble des résistantes et résistants. Voilà.
Un très grand merci, Elérica, pour cette efficace concision. Mais il paraissait important, au vu de notre journée, de suivre un autre cheminement, peut-être. Et à chaque fois que je vous entends parler de François Verdier, je suis toujours surpris de comme cela, cette bascule, cette entrée en résistance, a semblé quasiment naturelle et finalement pas dissimulée autour de François Verdier, expliquant peut-être le sort terrible aussi qui a été le sien. Merci beaucoup. Je disais, avant de passer pour 10 minutes la parole à Jacques Cantier, que je vais présenter dans un instant, même si je l'ai déjà présenté, qui a la lourde tâche de faire les conclusions de cette journée, nous permettant de sortir du plouf-plouf entre la Fondation de la Résistance et le Musée de la Résistance. C'est donc l'Université Jean Jaurès qui fera la conclusion, ce qui nous va très bien. Pourquoi est-ce que François Verdier est particulièrement important pour le Musée de la Résistance? C'est pas uniquement parce qu'il a été chef des murs. C'est parce que lorsqu'en 1977, ce musée est créé, il est créé par des militants de la République. Il est créé par d'anciens résistants, acteurs de la vie publique de leur temps pour la majorité d'entre eux, essentiellement radicaux-socialistes et socialistes, souvent liés à la maçonnerie, ou en tout cas engagés dans les organisations de défense des valeurs de la République. Alors, une période où ce mot n'avait pas perdu parfois la substance qu'il peut perdre aujourd'hui, malheureusement. Donc, l'origine des collections du musée nous permet de toucher du doigt une sociabilité de la résistance qui est souvent assez impalpable et diffuse, justement, derrière ces notions de valeur. Je le dis pour ceux qui travaillent sur les collections des musées, nous avons un noyau de collections extrêmement symbolique, symptomatique et éloquent de cette sociabilité. Alors bien sûr, nous l'avons enrichi au fil des ans et les derniers mois ne vont pas contre ça, mais l'étude de nos inventaires nous montre ce qu'ont voulu donner à un musée ceux qui, en Haute-Garonne, ne se sentaient représentés ni par le discours gaulliste, ni par le discours communiste. Et donc, naturellement, il faut l'aborder en le comparant aux autres. Mais c'est un élément assez intéressant et original de notre musée. Merci, Elérica, d'avoir rappelé la Marianne Noire. Merci pour cette intervention. Et vous comprenez pourquoi elle était aujourd'hui nécessaire aussi.
Même audio. Une mémoire sonore.
Jacques, avant de te dire bon courage, quelques mots. Tu es professeur d'histoire contemporaine à l'Université Jean Jaurès. Et nous disions pour Pierre Laborie tout à l'heure, mais il était extrêmement touchant aussi de voir tout à l'heure parmi les enseignants qui étaient là, entre ceux de ce matin, cet après-midi, lesquels sont passés entre tes griffes acérées de l'université Jean Jaurès pour préparer les concours ou pour étudier l'histoire. Tu es donc un spécialiste de l'histoire culturelle. On ne va pas faire tout le curriculum vitae de Jacques Cantier, mais savoir que ton travail de doctorat a porté sur l'Algérie sous Vichy. Question souvent posée, notamment à travers le programme du CNR. Je ne sais pas si Jean-Marie se rappelle, lorsqu'il était venu le 27 mai de l'année passée, la question avait été posée, justement, la résistance et l'empire colonial. Donc, peut-être une future journée d'études, sait-on jamais. Tu as ensuite beaucoup travaillé sur les lecteurs, le livre, la place de la lecture, toujours en travail de recherche, en publication aussi. Je renvoie en 2011 « Histoire culturelle de la France au XXe siècle »,« Lire sous l'occupation » en 2019 et la publication de ta thèse en 2002, « L'Algérie sous le régime de Vichy ». Alors maintenant, je peux le dire, bonne chance pour cette conclusion.
Conclusion qui sera rapide, je vous rassure, puisque le public attentif et très réceptif qu'on a eu tout au long de la journée a déjà emmagasiné beaucoup d'informations. En tout cas, ce que je voulais, pour conclure cette journée, c'est bien sûr remercier et féliciter le musée départemental de la résistance et de la déportation, tous les partenaires qui ont soutenu cette journée et tous les intervenants qui l'ont animée. Je crois qu'on a bien retrouvé aujourd'hui une des missions importantes de ce musée qui a été rénové en 2019. Si certains n'étaient pas revenus depuis, ils ont vu le nouveau cadre donc, de ce musée.
Tu ne le diras pas. Tu es trop modeste, mais tu as participé grandement et tu es l'une des chevilles ouvrières avec Jean-Marie Guillon de la rénovation de ce parcours muséographique.
Vous aussi avez participé à nos discussions. Donc ce musée, il est un lieu d'exposition, il est un lieu de conservation de collection, Antoine vient de le dire, et puis il est un lieu aussi de circulation de l'information, et c'était l'objectif de cette journée. Donc là, je crois que cette journée est une véritable réussite. La qualité de nos échanges s'est maintenue donc à un niveau très, très élevé, avec une grande complémentarité entre les différentes tables rondes. Et il me semble que l'ambition de cette journée la situe dans la filiation du grand colloque qui s'était tenu à Toulouse en 1993, organisé par Jean-Marie Guillon et Pierre Laborie, sur la résistance et les Français. Alors le privilège de l'âge fait que j'y avais assisté en tant que jeune à terre ces journées de décembre 1993. Je me rappelle des leçons inaugurales de Jean-Marie Guillon et de François Bédarida, et le contexte était un peu différent puisqu'il y avait beaucoup de témoins présents dans l'amphithéâtre, beaucoup de résistants qui dialoguaient parfois de façon rugueuse avec les historiens, et c'était tout l'intérêt aussi de ces échanges. Donc je crois qu'on est dans cette filiation de ce colloque. On avait le sentiment en 1993 que quelque chose d'important se passait, et je crois qu'aujourd'hui on a eu aussi ce sentiment que quelque chose d'important se passait ici avec ces communications vraiment de grande qualité. Donc l'ambition commune à ces manifestations, c'est ce qu'on pourrait appeler une ambition de transmission exigeante. Je crois que c'est ce qui caractérisait l'esprit de cette journée. Une transmission qui peut être chargée d'éco civique, on l'a évoqué dans la dernière table ronde, mais dont l'éco civique sera d'autant plus important que la qualité scientifique sera assurée, et elle l'a été tout au long de la journée. Donc ce bilan, cette conclusion, je voudrais peut-être la tracer autour de deux thématiques. Il me semble que l'ensemble des communications que nous avons entendues aujourd'hui nous ont donné une démonstration de méthodologie historique. Et je reviendrai d'abord sur ce point de méthodologie qui se dégage de ces différentes interventions. Et puis, dans un deuxième temps, ces interventions, elles nous ont donné aussi, il me semble, toute une série de matériaux très précieux pour répondre donc au titre de la journée, la résistance, une éthique en action. Voilà, c'est les deux points sur lesquels je vais revenir rapidement. la méthodologie historique, celle qui fait que la transmission est une transmission exigeante, elle se manifeste d'abord, me semble-t-il, par le rapport aux sources qu'ont vérifié, qu'ont démontré chacune des interventions présentées ici. Alors des sources, on vous l'a dit au début de la matinée, qui sont difficiles. On nous a dit que chaque source était un risque pour les résistants. Laisser des traces de leur action, c'était prendre un risque de menacer, de fragiliser leur réseau et leur action. Mais même si chaque source était un risque, on voit que les historiens arrivent à faire feu de tout bois et à reconstituer malgré tout des sources utiles, des sources très diverses. Alors on a évoqué au gré des communications des sources qui sont les sources de la répression, celles des adversaires de la résistance, la répression judiciaire, policière, qui peut laisser des traces, donc des personnes touchées, frappées par cette répression. On a vu aussi dans les différents PowerPoints qui vous ont été présentés toute une série de tracts, de textes imprimés par les résistants eux-mêmes, ces journaux, ce journal très, très émouvant de décembre 1940, imprimé de façon très modeste, on le voit par le réseau du Musée de l'Homme, où on dit qu'il faut en premier lieu garder son cœur et son cerveau dans ce contexte. Donc là, on a des traces tout à fait précieuses. On a vu aussi que peuvent exister aussi des sources plus surprenantes. Le journal intime d'un des membres du CNR qui rédige de façon abondante donc des souvenirs qui éclairent de l'intérieur la vue de l'institution. On a vu aussi que des sources littéraires pouvaient être utilisées également. On a évoqué ce matin ce texte, donc Nuit blanche, qui évoque le vécu résistant, en ayant recours à la fiction, mais en évoquant toute la problématique intime de ces résistants. On a évoqué l'Armée des ombres également, le beau livre de Kessel, qui est un livre document, on pourrait dire. Donc je crois que un des grands mérites de la journée, ça a été de rafraîchir notre mémoire sur ces sources, de nous en faire découvrir de nouvelles. Et je pense que tous les collègues présents dans la salle, tous les collègues secondaires, seront trouver des exemples pour les cours qu'ils pourront présenter sur ces thématiques. Toujours dans cette question de la méthodologie, il me semble que ce qui a été démontré sur cette nécessité de la rigueur méthodologique, c'est aussi le sens de la complexité. Lorsqu'on aborde cette période donc de l'occupation, sens de la complexité qu'il faut retrouver au niveau de la temporalité. Chacun des intervenants a montré comment plusieurs temporalités coexistent donc au cours de cette période. Il y a l'héritage du temps long, on l'a parlé parfois du temps de l'ancien monde. L'ancien monde, c'est ce monde d'avant la débâcle de 1940, ces décennies républicaines qui ont forgé les mentalités collectives, qui n'ont pas complètement disparu avec l'effondrement de 1940. À côté de ce temps long, donc celui des longs héritages, on a aussi le temps court de la guerre qui s'impose. Et on a vu que 1940, ce n'est pas la même chose que 1941. On a insisté sur les tournants de l'année 1942 qui sont multiples. Le retour de Laval, les grandes rafles de l'été 42, les événements de novembre 42. On a vu aussi avec beaucoup de témoignages, la coloration particulière des années 43-44, qui sont à la fois les plus dures sur la répression, mais qui peuvent être aussi des années d'espoir. La carte de vœux que Marc Bloch envoie à son vieux maître en 44 montre que, malgré la dureté de temps, l'espoir est ici présent. Donc, le temps court de la guerre. Et puis, nous avons vu aussi des instantanés, certaines journées particulières. Et là, on s'est arrêté sur cette journée du 27 mai 1943, qui est celle de la constitution du CNR, avec toute la chronologie fine de cette journée, la journée du 15 mars 1944, qui voit l'aboutissement des longues discussions autour du programme. Donc, complexité de ces temporalités, imbrication de ces différentes temporalités dont il faut avoir conscience, et chacun de nos intervenants l'a démontré. Ce sens de la complexité, on le retrouve aussi dans le rapport à la géographie. Et là aussi, chacune des communications a bien précisé toutes ces variations liées à la géographie. Si on est dans la zone nord, la présence de l'occupant, l'éloignement de Vichy crée un contexte spécifique. La zone sud a sa propre dimension géographique. L'Afrique du Nord, on l'a un peu évoqué aussi, avec ce vichysme sous protectorat américain qui se met en place sous Darlan et sous Giraud et qui constitue un défi pour les résistants. Et puis, on n'est pas resté dans le cadre strictement français, puisque nous avons eu aussi, dans cette prise en compte de la diversité géographique, l'exemple de l'Italie, des lendemains du 8 septembre 1943. Et donc, on a vu ici un exemple donc, de recomposition politique, avec à la fois des points communs et des différences par rapport à l'exemple français. Donc, voilà, une dimension méthodologique particulièrement remarquable dans ces communications. Deuxième point que j'évoquerai rapidement, un certain nombre de leçons d'histoire donc, sur cette réflexion sur la résistance, une éthique en action, qui était le point de départ qu'avaient choisi les organisateurs de la journée. Cette action, on l'a vu, elle se structure à des échelles variables, à des échelles différentes. D'abord à l'échelle individuelle, on a eu toute une série de portraits individuels. On a terminé par celui de François Verdier, mais on avait évoqué Edmond Michelet, Guingouin, Cavaillès, tout au long de la journée. Ces différents personnages, on les a vus héritiers de filiations très diverses. On les a vus venir d'horizons culturels, politiques, religieux, très, très différents. Et on a vu comment, à partir de ces itinéraires individuels, de ces choix de refus individuels, refus de l'ordre nazi, refus des complices de cet ordre nazi, du gouvernement de Vichy, comment, à partir de ces refus individuels, se construisent des refus collectifs, comment s'agrègent donc toute une série de groupes au gré de l'opportunité des rencontres, des affinités. Ça peut être des rassemblements ponctuels comme ceux des villageois de Villecroze qui refusent que l'on enlève la Marianne de leur village. Et puis ça va être des organisations plus structurées, des réseaux, des mouvements qui ont besoin de se doter d'une organisation interne, qui ont besoin de se situer les uns par rapport aux autres. Donc là, beaucoup de choses nous ont été dites sur ces logiques d'agrégation, sur cette contre-société, cette société dissidente, selon qu'elle a été qualifiée par les différents intervenants. Cette contre-société, on a vu qu'elle disposait de sa propre grammaire, de ses propres valeurs, de ses manières d'être. J'ai bien aimé ce qui a été dit sur la façon aussi de tisser amitié à l'intérieur de cette contre-société. Ça m'a rappelé un autre souvenir, non pas celui du colloque de 93, mais d'une rencontre avec Jean-Pierre Vernant qui avait été organisée au début des années 2000, au moment de la sortie du livre « La traversée des frontières ». Le président de l'université du Mirail, Rémi Pêche, l'avait invité. Et Jean-Pierre Vernant était venu avec quelques amis résistants toulousains. Et j'avais été très, très ému de voir ce lien d'amitié entre Jean-Pierre Vernant, qui était ce grand intellectuel, un des plus grands intellectuels français du XXe siècle, et le cas qu'il faisait de ses amis résistants, l'amitié, la tendresse presque, on pourrait dire, qu'il manifestait dans les échanges avec ses amis. Donc cette société, elle élabore ses règles internes, elle désigne ses chefs, elle délibère sans voter. Et l'après-midi nous a montré comment de ces délibérations s'affirme une volonté programmatique. L'idée du futur est au centre des préoccupations de ces résistants, et ce futur, il faut le programmer, il faut lui donner une forme, et toutes les communications complémentaires sur la préparation d'abord du CNR, puis de son programme, nous ont montré cette dimension programmatique, donc, qui va survivre à la libération. Donc au bilan, il me semble que cette journée montre tout le travail qui a été accompli depuis 1993, les acquis nouveaux donc proposés par les différents historiens de la résistance, travail qui permet cette transmission vers le jeune public dans le cadre scolaire, comme on l'a vu à travers les programmes, à travers un certain nombre de manifestations civiques. Et pour terminer, je reprendrai la citation qui nous a été donnée, extrait du journal de Lecomte Boisnet, le jour donc de la constitution du CNR. Alors, on nous a dit qu'il avait écrit dans son journal: après avoir vécu une telle journée, on est remonté pour longtemps. Donc, je crois que nous pourrons dire la même chose. Après avoir vécu une telle journée, nous sommes remontés aussi pour longtemps. Merci à vous.
Un très grand merci, Jacques, vraiment. L'exercice était ardu et tu y as répondu haut la main. Merci à l'ensemble des conférencières et des conférenciers. Merci à tout le public. Vous vous êtes succédé au cours de la journée, à certains toute la journée, d'autres le matin, d'autres l'après-midi, dans une journée qui, je le sais, n'était pas nécessairement banalisée pour ceux d'entre vous qui avaient encore une vie professionnelle majoritairement enseignante. Merci beaucoup. Continuez à suivre l'actualité du musée. Il y aura de nombreuses journées avec la Fondation de la Résistance, avec d'autres. Très bonne soirée à toutes et tous.
Même audio, une mémoire sonore.